Hello, je suis Carlotta. Bienvenue dans Product Marketing Stories, le podcast qui décrypte les méthodologies, partage des conseils et apprentissages concrets pour rendre compréhensible et accessible le product marketing. Ce n'est pas une surprise, ce n'est pas évident de se lancer comme PMM une fois terminé ses études. Et si on changeait ça? Dans cet épisode, Charlotte Ballet, aujourd'hui freelance et ex-PMM chez celle-ci, nous partage son expérience pour montrer que c'est possible de devenir PMM en sortie d'études et montrer la réalité du métier quand on débute. J'ai adoré mon échange avec Charlotte, car elle dédramatise complètement la situation et donne toutes les clés pour réussir dans son premier poste de PMM. Elle nous explique comment elle en est arrivée à faire du product marketing chez celle-ci, ses principales missions et sa montée en compétences, les enjeux quand on débute sa carrière dans le product marketing, comment trouver un poste de junior PMM, et plein de conseils pour trouver sa place et se sentir légitime. J'espère que cet épisode vous aidera à trouver votre premier job de PMM et vous donnera les clés pour réussir dans votre prise de poste. Bonne écoute! Salut Charlotte, comment tu vas?
Salut, super, et toi?
Ça va très bien. Je suis super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais?
Ouais, ça marche. Et ben, moi, c'est Charlotte. Ça fait 3 ans que je suis Product Marketing Manager. J'étais auparavant PMM chez celle-ci, qui est une solution SaaS de gestion commerciale et financière. Et depuis quelques semaines maintenant, je me suis lancée en PMM freelance.
Génial. Je suis vraiment, je le redis, super contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui, Charlotte, parce que c'est vrai que le métier de PMM, il est encore peu connu. Il n'y a pas vraiment d'études, de formation spécifique pour devenir product marketer. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de se lancer dans ce métier en sortie d'études. Et c'est ce que tu as fait, donc on va en parler. Et tu es là aujourd'hui pour justement partager ton expérience, tes conseils pour devenir junior ou associé de PMM, mais aussi pour nous montrer la réalité du métier tel que tu l'as vécu. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé à faire du product marketing ?
Ouais, j'ai fait des études à l'IAE de La Rochelle, donc c'était des études en management, en gestion, et j'avais pris une option communication et marketing. J'ai été jusqu'au master par cette voie-là, donc j'ai fait quelques stages et quelques alternances, et en général mes stages étaient plutôt orientés communication, marketing. Et à la fin de mes études, en fait, j'ai fait une alternance dans une start-up qui allait lancer, en fait, qui éditait une plateforme collaborative qui était orientée sur la qualité de vie au travail. Et donc, du coup, j'ai un petit peu commencé ici. Alors, je faisais pas vraiment du product marketing. C'était un poste qui était à mi-chemin entre plein de métiers, quoi, le fonctionnement startup. Donc, je faisais un petit peu de marketing, je faisais du product design, je faisais des maquettes, je travaillais avec les développeurs pour comprendre quelle serait la prochaine fonctionnalité. Enfin, voilà, c'était vraiment un petit peu de tout. Et du coup, à la fin de cette alternance, j'ai trouvé rapidement un premier poste donc chez celle-ci en tant que documentation manager. Donc là, l'objectif, c'était plutôt de faire de la documentation pure produit pour l'interne et pour les clients. Donc, j'étais pas encore dans le product marketing. Et au bout de quelques semaines, en fait, j'ai compris que c'était pas ici ma voie. Et il y a un poste qui s'est ouvert en interne. Et en fait, ça s'est fait comme ça, quoi.
Du coup, pendant tes études, tu te disais déjà que tu voulais au final devenir Product Marketing Manager, peut-être en rentrant directement sur cette voie comme tu l'as fait chez celle-ci, ou pas du tout, tu savais même pas que ce métier existait?
Pour le coup, c'est plutôt la deuxième option. Je connaissais pas du tout le métier, je connaissais même pas le nom du métier. Enfin, vraiment, ça me parlait pas du tout. En études, je me suis beaucoup cherchée, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'étais assez créative, j'aimais bien le marketing, j'aimais bien la gestion de projet, mais honnêtement, j'avais pas trop d'idées. Et en fait, j'ai vraiment compris le métier une fois que je suis tombée dedans. Hein. Clairement, ça s'est vraiment appris au fil de l'eau. Et quand on m'a proposé le poste, c'est là en fait que vraiment je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut me correspondre en fait?
Justement, quand on te l'a proposé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit oui, en fait, c'est ça. Enfin, je pense que j'ai trouvé ma voie et finalement, c'est vers là que je veux aller.
Bah en fait, ça a été une décision qui a mis... Enfin, ça n'a pas été tout de suite une évidence. J'ai quand même pas mal réfléchi parce qu'au moment de changer de poste, j'avais un peu deux options qui me tendaient la main. J'avais une option en marketing, mais plutôt côté brand, communication, événementiel, et ce poste-là de PMM. Donc du coup, c'était quand même deux univers assez différents. Et au final, ce qui a fait pencher... Il y a plusieurs choses qui ont fait pencher la balance. D'une part, clairement, mes managers et mes collègues qui m'ont dit « Mais non, en fait, c'est le PMM qui est fait pour toi. » Pas que l'autre n'était pas fait pour moi, mais ça penchait plus de ce côté-là. Et à côté de ça, mon arrivée en documentation, j'ai aussi réalisé un gros travail sur la FAQ de celle-ci, où je l'ai refaite de A à Z. Donc en fait, j'ai rerédigé entièrement plus de 400 articles sur le produit. Et du coup, j'avais un gros avantage, c'est que je connaissais super bien le produit pour quelqu'un qui venait d'arriver. Et forcément, ça a fait pencher la balance. Donc pour moi, c'était un gros risque, parce que je me sentais moins à l'aise sur le poste-là, je connaissais pas du tout, donc forcément, il y avait un petit risque, mais en même temps, ça me donnait envie de me challenger, de découvrir quelque chose de nouveau. En même temps, c'était tellement transverse que je pouvais aussi apprendre ce que faisaient les autres dans leur métier, quoi, les PM, les sales, etc. Et je sentais aussi qu'il y avait une possibilité d'être impliquée dans des sujets qui étaient quand même assez haut niveau dans l'entreprise. Et moi, en sortant d'études, je me disais, mais c'est incroyable, en fait, ça ouvre des portes pas autant que j'aurais pu penser, quoi.
Excellent. Et je suis curieuse de savoir pourquoi est-ce que tes collègues pensaient que le poste de PMM t'allait mieux que le poste de brand / événementiel.
Je pense que j'avais, dans mon expérience quand même si ça restait une année d'alternance, j'avais quand même cette sensibilité aux produits, parce que pendant un an, pendant mon alternance, j'ai travaillé un petit peu dans toutes ces missions-là, avec les développeurs directement, avec le design, etc. Donc je pense qu'il y avait cette sensibilité-là. Il y avait forcément le côté où je connaissais le produit, et c'est plus facile de recruter quelqu'un en interne qui connaît déjà le produit plutôt que de ramener quelqu'un de l'extérieur qu'on doit ensuite former pendant plusieurs mois. Et le fait d'avoir aussi beaucoup rédigé, même si c'était de la doc technique, ça leur a permis de voir aussi, je pense, peut-être des qualités rédactionnelles qui tiraient beaucoup plus vers le marketing que vers de la documentation purement technique.
Donc finalement, c'est un peu le profil couteau suisse qui fait que ça va plutôt pencher sur la balance, quoi. C'est ça ?
Ouais, complètement.
Est-ce que, si on rentre un peu plus dans le détail, tu peux nous expliquer dans quel contexte t'es arrivé chez celle-ci pour qu'on comprenne bien ce que t'as fait après, et on va un peu plus rentrer dans le détail sur ton retour d'expérience.
Donc quand je suis arrivée chez celle-ci, en tant que documentation manager, j'étais au produit. Produit, il y avait 4 product managers qui prenaient en charge tout ce qui pouvait s'apparenter un petit peu au final au product marketing. Donc les interviews, les études, les communications clients quand on avait des nouveautés produits. Donc en fait, tout venait un peu du produit. Et quand je suis descendue au marketing et au product marketing, donc là j'étais dans l'équipe marketing. Et en fait, il y avait déjà une personne qui était en place dans ce service-là, qui était un ancien PM de chez celle-ci justement, qui a changé de poste. Et au final, de fil en aiguille, cette personne-là a décidé de repartir en tant que PM. Donc du coup, très vite, je me suis retrouvée un petit peu toute seule sur ce poste à reprendre en fait les différents sujets qui avaient déjà été engagés.
Tu as dit tout à l'heure, je suis descendue au marketing, mais j'imagine que c'est parce que dans les étages, quand on a organisé celle-ci, le produit est au troisième étage et le market au deuxième.
Exactement, c'est une vieille habitude qui me reste de chez celle-ci, c'est qu'en effet, tout le produit et la tech est à l'étage et toutes les fonctions business sont au rez-de-chaussée, donc en effet, c'est clairement un lapsus.
Ça marche. Super intéressant de voir que, en fait, t'es arrivée, pour ta première expérience de PMM, tu t'es tout de suite retrouvée presque, en fait, jetée dans le grand bain toute seule. Presque à devoir découvrir ce que c'est que le PMM et à délivrer de la valeur assez rapidement. Je suis curieuse du coup que tu nous présentes les principaux sujets, les principaux projets sur lesquels tu as travaillé pour qu'on ait une meilleure compréhension de ce que était ton rôle.
Le scope était assez large et en fait, vu qu'il y avait déjà des projets aussi qui avaient été engagés avant, j'ai un peu pris le train en marche et en même temps j'avais envie de mettre plein de choses en place. Donc niveau rythme, c'était assez intense et il y avait beaucoup d'enjeux de croissance. Donc contrairement à certains PMM qui font beaucoup de stratégie, j'ai quand même aussi fait beaucoup d'opérationnel. Moi j'avais, on va dire, 2 gros focus. Le premier, c'était toute la partie go-to-market, mettre en place les stratégies, les process internes, gérer la coordination des équipes, définir le plan de lancement et aussi définir, créer surtout tous les contenus. Donc en fait, je crée moi-même les articles de blog, les newsletters, les briefs pour les vidéos produits. Je mettais toujours à jour la FAQ, c'est quelque chose qui est resté dans mon scope. Je faisais les product tours, donc j'avais toute cette partie-là très opérationnelle et aussi du coup la communication interne une fois que c'était sorti. Et le deuxième volet, c'était la gestion des partenaires technologiques. Je sais que c'est pas le cas de toutes les boîtes dans la tech, mais en tout cas chez celle-ci, la gestion des partenaires technologiques était au marketing et du coup c'est moi qui en avais la charge. Donc du coup, je gérais un petit peu le choix de tous les partenaires. On avait beaucoup de partenaires qui entraient, qui voulaient se connecter à celle-ci. Et mon but, c'était de comprendre ceux qui avaient le plus d'intérêt pour nos clients et aussi pour faire de l'acquisition. Et du coup, je faisais vraiment le suivi global en fait, de ces partenariats jusqu'au lancement.
J'imagine que cette partie-là, elle était plus stratégique du coup. Enfin, ça te permettait d'avoir justement cette balance entre des missions assez opérationnelles, tactiques, sur la partie go-to-market et sur la partie partenariat technologique, prendre un peu de recul et de vraiment pouvoir travailler la stratégie de celle-ci pour être le plus efficace et le plus pertinent possible dans ses offres.
Ouais, complètement. C'était vraiment hyper opérationnel. Après, ça restait quelque chose d'assez chronophage. Ça, c'était vraiment mes deux plus grosses missions. Et après, forcément, il y avait beaucoup de choses qui gravitaient autour. Il y avait la partie sales enablement. Pour ma part, j'ai eu quand même beaucoup de chance parce qu'au bout de quelques semaines, il y a une personne qui arrivait chez nous côté sales pour prendre en charge cette partie. Donc, c'était plus de la coordination, du transfert d'informations par rapport à ce qui allait sortir, etc., pour se préparer. Et il y avait toute une partie aussi, forcément, connaissance marché, prospect, client. Mais vu que c'est quelque chose qui prend énormément de temps, je le faisais, mais certainement pas assez par rapport à ce qu'il faudrait faire. Mais je pense qu'on a tous un peu les mêmes problématiques.
Tu gérais tous ces sujets en parallèle. T'as pas été d'abord focus les partenariats technologiques, ensuite le sales enablement, etc.
Non, tout était vraiment en même temps.
Et comment tu faisais pour gérer tout ça? Parce que, dit comme ça, pour moi, ça m'a l'air... c'est aussi le métier de PMM, de pouvoir gérer énormément de projets en même temps. Comment est-ce que toi, tu as des conseils ou des bonnes pratiques que tu as mis en place pour justement réussir à tout gérer de front et à bien le faire?
Ça n'a pas été toujours évident et ça fait partie vraiment du plus gros enjeu que j'ai eu. Et ça a été aussi bien à mon arrivée que pendant tout mon expérience. Et au final, il y a des bonnes pratiques, elles ne sont pas hyper faciles à mettre en place, surtout quand on est junior, on n'ose pas forcément toujours. Mais en fait, on ne peut pas tout faire. Et plus on va dire oui pour faire des choses, plus on va nous en donner et on va rentrer un peu dans un cercle vicieux. Au final, ça ne va jamais s'arrêter. Donc du coup, moi, vraiment, les trois grands points que j'ai essayé de mettre en place, c'est vraiment de bien définir les priorités, parce que des fois on a tendance à penser que certaines choses sont prioritaires alors qu'au final elles sont pas forcément hyper urgentes. Donc voilà, bien redéfinir ce qui est prioritaire, bien évaluer la pertinence de ce qu'on nous demande. Moi j'avais souvent par exemple des sales qui avaient besoin à un instant T d'un certain doc, etc. Et moi tout de suite j'avais envie d'aider, donc je fonçais, j'allais faire mon doc et je fonçais vraiment tête baissée. Donc du coup après je prenais plus le temps de savoir c'est quel besoin, comment ça va être utilisé. Est-ce que c'est un besoin qui appartient à tous les sales ou est-ce que c'est juste pour un sales? Enfin voilà, bien redéfinir à qui ça va servir. Est-ce que ça va servir au plus grand nombre? Parce que on ne peut pas toujours se permettre, quand on a autant de missions, de faire un document pour un sales quand il y en a 20 dans l'entreprise. Donc du coup, c'était surtout ça et savoir dire non. Et savoir dire non, c'est pas évident. Quand on est junior, on a envie de tout faire et on n'ose pas forcément dire non à un manager ou à quelqu'un qui est là depuis beaucoup plus longtemps que nous dans la boîte. Mais en fait, c'est clairement nécessaire et c'est pas du tout mal perçu, donc il faut pas hésiter de temps en temps.
Comment tu faisais pour dire non? Tu disais non comme ça ou comment t'as réussi à prendre assez confiance pour le faire?
En général, je passais toujours quand même par la case bien évaluer la pertinence de la demande. Donc du coup, ça me permettait quand même d'appuyer pas mal mon nom. Et après, il y a toujours des moments où c'est plus délicat que l'autre, mais je validais toujours ce nom avec mon manager. Donc forcément, j'avais aussi l'appui de mon manager pour dire « en effet, là, à l'instant T, on n'a pas le temps, on n'a pas la ressource pour le faire ». Donc ne jamais être seul dans ces prises de décision, c'est important.
Et autre question du coup aussi qui fait suite, c'est comment est-ce que tu suivais tes performances pour t'assurer que justement tu partais pas dans une mauvaise direction ou t'investissais ton temps, le bon impact ou l'impact suffisant?
Clairement, pour cette partie-là, c'était un peu un point noir pour moi parce que j'avais pas vraiment d'OKR. Dans les équipes et au marketing, tout le monde avait un petit peu des objectifs bien définis, quantifiables. Pour le product marketing, c'est un petit peu plus compliqué de quantifier ce qu'on fait. C'est souvent des petites interventions un peu à gauche à droite ou des projets qui se mesurent difficilement. Pour ma part, j'avais pas forcément d'OKR dédié. J'étais clairement en fait évaluée sur quasiment tout, quoi, que ça soit l'acquisition, la rétention client, le churn. Donc voilà, j'avais pas de suivi de performance vraiment dédié. Par contre, on essayait quand même, en effet, de mesurer certaines choses. C'est-à-dire que si je produis un doc interne qui est pas lu, c'est qu'il y a clairement un souci. Donc c'était plus de la remise en question quand on voyait que certaines choses ne fonctionnaient pas du tout. Et vu que j'étais beaucoup dans l'opérationnel aussi, je créais beaucoup, beaucoup de contenu marketing. Donc du coup, en fait, c'était du suivi de performance qu'on pouvait faire comme les personnes qui créaient du contenu en tant que content manager. Donc la performance des articles, est-ce qu'ils étaient lus, est-ce qu'ils faisaient de la conversion. Enfin voilà, c'était pas propre au product marketing.
C'est vrai que le point que tu soulèves, il fait sens parce que souvent les métriques sur le product marketing, elles vont être attachées soit au produit, soit au marketing, soit au business sales, selon en fait les objectifs globaux de l'entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas facile au début de se dire qui on se rattache et quelles métriques on va suivre et on pense vraiment influencer.
C'est ça. Bah nous, on était très orientés acquisition à ce moment-là, donc c'est vrai que ça faisait du sens à la fois d'être attaché au marketing et d'avoir du coup le suivi de performance qui allait avec ça. Il y a eu quelques réflexions aussi pour potentiellement avoir des OKR qui étaient en lien avec le produit, par exemple l'adoption d'une fonctionnalité. Mais pareil, ça a été assez compliqué à mettre en place parce que ça demande aussi à une autre équipe de s'adapter et de mettre en place des OKR. Et du coup, forcément, c'est quand on dépend d'une autre équipe, c'est aussi compliqué à mettre en place.
Et comment elle s'est faite ta montée en compétences pour te former au métier au fil des mois? Est-ce que tu t'es formée un peu en autodidacte? Est-ce que aussi, j'imagine, ta manager qui a dû aussi t'aider pour te former? Je suis curieuse d'en savoir un peu plus.
Bah clairement, et comme beaucoup, hein, j'ai pas eu forcément de formation spécifique en product marketing. 80% du temps, ça a été clairement de l'autodidacte. J'ai passé beaucoup de temps sur LinkedIn, clairement. Suivre des référents, à lire des ressources. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'est mes collègues. Au-delà des managers, j'avais aussi plein de collègues qui avaient de l'expérience, qui avaient déjà travaillé avec des PMM avant moi dans d'autres boîtes. Et du coup, qui ont pu aussi me faire passer ces connaissances-là qu'ils avaient, leur retour d'expérience par rapport à la collaboration qu'ils avaient eue avant avec un autre PMM. Et du coup, ça m'a aussi beaucoup apporté, clairement. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir une alternante. Donc, on pourrait penser que ça serait à elle d'apprendre. Mais en fait, j'ai aussi beaucoup appris parce que ça m'a permis de vraiment reposer les bases de mon métier, de comment je l'explique, comment je le mets en place de façon assez simple et assez compréhensible. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée d'avoir quelqu'un avec moi et de me forcer en fait à transmettre alors que moi-même j'apprenais encore.
C'est une excellente manière d'enseigner pour asseoir ses compétences.
Clairement.
Et c'est toi qui allais voir justement tes collègues pour leur demander des conseils. Enfin, comment ça s'est fait? Ou c'est eux qui sont plutôt venus vers toi? Ça s'est fait de façon naturelle?
Ça s'est fait de façon hyper naturelle parce que c'est des personnes avec qui je travaillais déjà au quotidien. La plupart du temps, c'était la personne au Sales Enablement. Donc en fait, on se voyait déjà toutes les semaines. Ou c'était les PM. Donc en fait, on avait déjà des relations qui étaient très liées par notre métier et par les process qu'on avait en place. Donc ça s'est fait vraiment hyper naturellement.
C'est super rassurant, je trouve, de voir que finalement, pour se former, pour monter en compétence, c'est pas uniquement, faut pas juste uniquement aller voir de l'externe et se dire, mais en fait, je peux rien apprendre si je suis la seule PMM. En fait, il y a plein de ressources en interne, de personnes qui sont pas directement des PMM, mais qui peuvent aussi nous apprendre énormément. Et je trouve que c'est super rassurant de l'entendre.
Ouais, clairement. Et puis après, il y a la bonne vieille méthode aussi de tester et puis de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, hein. Et quand on est le seul PMM et que en plus de ça, c'est un service en construction, on a aussi la liberté de tester des choses et c'est pas grave si ça fonctionne pas. Donc voilà, c'est aussi une super méthode pour apprendre forcément.
Et justement, parlons-en, parce que quand on se lance dans son premier poste, on peut, comme tu le dis, se sentir intimidé, ne pas trop oser par peur de mal faire. Donc comment est-ce que tu as réussi à trouver ta place, à te sentir légitime et à réussir justement cette bonne collaboration avec l'ensemble des équipes?
Bah, en effet, le début, ça n'a pas été hyper simple. J'avais 22 ans, je sortais d'études, je me voyais un peu comme un bébé et je pense que dans les équipes, on me voyait aussi un peu comme le bébé du marketing parce que j'étais assez jeune, j'étais d'une nature assez discrète et c'est toujours le cas. Donc déjà, j'ai eu la chance de tomber dans une super équipe où on m'a laissé ma place et c'est important aussi quand on a une personne qui sort juste d'études et qui a besoin, voilà, de trouver sa place, d'aussi lui laisser. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est d'avoir un peu ses alliés dans l'entreprise. Moi, ce que j'appelle un peu d'avoir ses ambassadeurs, c'est ses collègues que tu vas identifier comme ceux qui comprennent le mieux ton métier, même s'ils comprennent pas tout, c'est pas très grave. Mais moi, j'avais vraiment identifié deux, trois personnes après quelques mois qui avaient un intérêt un petit peu plus fort pour ce que je faisais, qui me remerciaient de ce que je faisais, qui me posaient des questions. Et en fait, c'est ces personnes-là qui m'ont aidé à prendre ma place parce qu'ils ont très vite compris la valeur ajoutée du métier et de ce que je faisais. Et du coup, qui m'ont aidé à prendre cette place-là dans l'entreprise. Donc du coup, quand j'ai eu des process à mettre en place, c'était forcément plus facile quand on est appuyé par d'autres personnes qui viennent d'autres services et qui sont là aussi pour convaincre les autres et t'aider à les convaincre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, et c'est un conseil qu'on m'a donné quand je suis arrivée, c'est de ne pas vouloir tout changer trop vite. Parce que forcément, on a envie de mettre en place plein de choses. Sauf que quand on vient juste d'arriver, qu'on est junior, on arrive au milieu d'une entreprise qui fonctionne déjà, il y a des équipes en place, on ne peut pas tout changer d'un coup. Parce qu'il y a des personnes qui sont aussi réfractaires au changement, parce que bah, un PMM qui est là depuis 10 ans, il n'a pas forcément envie qu'une junior de 22 ans vienne lui dire qu'il faut tout changer. Donc du coup, voilà, c'est aussi un conseil, c'est de faire les choses petit à petit, de pas non plus se mettre la pression à vouloir tout changer, à vouloir que tout soit parfait tout de suite. On peut tester, on peut faire les choses petit à petit, et au final, en regardant dans le rétroviseur après quelques mois, on se rend compte qu'en fait, on a réalisé plein de choses, quoi.
Et en plus, je trouve que c'est finalement une technique de se dire, en fait, on va choisir ses batailles, et on va justement prouver par chaque bataille que ça fonctionne, et du coup c'est comme ça aussi qu'on arrive à embarquer les équipes en montrant bah voilà, on a fait cet exercice, ça a bien fonctionné, donc maintenant on va travailler sur autre chose, et c'est comme ça que je vous propose de le faire.
Exactement. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait, hein. J'ai pris un lancement produit un petit peu témoin que je me suis vraiment poussée à réaliser dans les normes, j'ai tout documenté. À la fin, j'ai fait mon petit PowerPoint pour présenter, bah voilà, j'ai fait ça, ça a donné ça, etc. Et du coup, bah, une fois que j'ai réussi à convaincre le PM qui était référent de cette nouveauté produit-là, forcément, tous les autres avaient envie que ça marche aussi bien. Du coup, c'est toujours utile de se dire, bon, bah voilà, je mène pas tout de tous les fronts, je prends un exemple qui va fonctionner parce que je vais m'en donner les moyens, et ensuite, ça permettra aux autres d'avoir envie de collaborer aussi, quoi.
J'imagine aussi que tu as dû quand même beaucoup évangéliser ton rôle de PMM, comme tu le disais au début, trouver des ambassadeurs, y aller petit à petit. Quels sont tes conseils pour faire comprendre justement ta valeur, faire comprendre l'intérêt du product marketing par rapport à, aux enjeux que vous aviez chez celle-ci ?
C'est vrai que c'est un enjeu qui n'est pas évident. Dans un premier temps, je dirais qu'il faut quand même savoir relâcher un petit peu la pression, parce que quoi qu'il arrive, et c'est pas que dans le PMM, tout le monde ne peut pas comprendre à 100% notre métier. Et qu'on soit PMM, qu'on soit dans le CSM, qu'on soit sales, les gens ne voient que la partie émergée de l'iceberg, hein, dans tous les métiers. Donc voilà, ça c'est important de bien le savoir. Il ne faut pas que ça devienne non plus une bataille 24 heures sur 24, parce que sinon juste on s'épuise. Il y a quand même des choses qui peuvent aider. Donc déjà bien documenté, surtout sur les premières fois, comme je l'ai dit juste avant, de prendre un témoin, de se dire ce lancement produit là, je le référence bien, je note bien les résultats et ensuite je le présente pour que les gens comprennent quelle a été mon implication, quel résultat ça a donné, et pouvoir se dire oui en effet ça a un intérêt de faire tout ça. Donc il y avait ça, il y a aussi forcément ces ambassadeurs dont j'ai parlé avant, qui servent à tout ça parce que, mine de rien, quand on arrive dans une entreprise qui fait 50, 100, 150 ou encore plus de salariés, on ne peut pas se donner comme mission de convaincre tout le monde, c'est impossible. Par contre, si on a convaincu 5 ou 6 personnes qui elles-mêmes vont en convaincre 5 ou 6, et en fait, petit à petit, on va réussir à convaincre plein de monde. Donc c'est aussi comme ça qu'on peut fonctionner. Et quelque chose que je faisais souvent et que au final, c'est une habitude que j'ai gardée tout le long de mon expérience, c'est que j'intervenais beaucoup à l'oral dans les weekly, notamment les weekly des sales, parce que forcément ils sont aussi eux hyper occupés, ils n'ont pas forcément le temps de lire toutes les ressources marketing parce qu'il y en a beaucoup, etc. Donc du coup, ce que je faisais, c'est quand il y avait une nouveauté produit, quelque chose d'assez impactant, je prenais 5 minutes le lundi matin pendant leur weekly pour leur expliquer. Ça prenait pas beaucoup de temps, mais ça leur permettait vraiment de m'identifier, moi, par rapport à la nouveauté et par rapport à ce qui s'est passé. Et du coup, ils revenaient aussi derrière vers moi pour me poser d'autres questions. Et pas hésiter à faire des petites prises de parole et à dire « Coucou, c'est moi » et je vous informe d'un truc sympa, donc voilà.
Super utile tout ce que tu dis, parce que je trouve que c'est super concret et finalement pas difficile à mettre en place. C'est vraiment des super tactiques. Donc si tu avais un conseil à nos auditeurs pour devenir PMM en sortie d'études, qu'est-ce que ce serait ?
Déjà, ne pas penser qu'on n'est pas légitime pour devenir PMM. C'est hyper important parce que dans mon cas, je suis à La Rochelle, donc c'est pas forcément une ville où il y a beaucoup d'entreprises dans la tech, où c'est hyper dynamique pour trouver un travail, etc. Je connaissais pas le PMM du tout. Donc je pense que en fait, il suffit surtout d'avoir pas mal de curiosité et de s'y intéresser. Et c'est pas fermé que aux personnes qui ont déjà une expérience dans le product management, par exemple, ou dans le marketing. C'est bien s'il y a quelque chose avant, mais si on sort d'études et qu'on a déjà cette sensibilité marketing et qu'on a envie de comprendre aussi le métier des autres, ce que c'est que le produit et quels sont les enjeux, je pense que tout est possible. Et dans mon cas, c'est pas quelque chose que j'avais fait parce que je savais pas que j'allais devenir PMM, mais je pense que c'est important aussi de reprendre nos expériences en stage et en alternance. Donc là, je parle plutôt pour ceux qui vraiment sortent d'études ou qui sont encore en études. En marketing et en communication, on a plein de bonnes pratiques qui servent en tant que PMM Et du coup, c'est hyper important de les valoriser parce qu'un PMM, ça fait des benchmarks, ça fait des études de marché, ça définit des messages. Et en fait, tout ça, on le fait déjà en marketing et en communication. Donc en fait, tout n'est pas à jeter. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser sur son CV, en entretien, sur sa lettre de motivation. Et voilà, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a souvent des entreprises dans lesquelles on ne connaît pas non plus le PMM et les managers ne connaissent pas forcément le métier non plus. Et je pense que ça peut valoir le coup aussi parfois de poser la question. Et même si on postule pour un job en marketing tout court ou en communication, je pense qu'en fait, c'est aussi bien de dire, voilà, il y a ce métier qui existe, il peut vous apporter telle ou telle chose et ouvrir la porte en fait à tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi parfois... oser, et ça peut fonctionner. Et mon dernier conseil, ça serait de cultiver à fond son réseau. Et moi, ça m'aide encore beaucoup, et ça aide pour se former, ça aide pour avoir des opportunités. Je suis beaucoup sur LinkedIn, je sais que ça peut faire peur à certains, parce qu'il y a beaucoup de monde qui crée du contenu, et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça. Mais en tout cas, ça reste un bon moyen de se faire du réseau, de comprendre mieux le métier. Donc même si on n'a pas encore un pied dans l'entreprise, ça peut être hyper enrichissant d'aller démarcher des PMM qui sont en entreprise, qui sont freelance, peu importe, de comprendre leur métier. Et ça fait vraiment une corde à son arc en plus, quoi.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus, rencontrés et in fine qu'on fait l'épisode de podcast aujourd'hui.
Exactement.
Et est-ce que tu aurais aussi un conseil, une bonne pratique pour réussir dans son premier rôle en tant que Product Marketing Manager ?
Ça va revenir un petit peu à pas mal de choses que j'ai dit avant, mais je pense que des fois, on a l'impression que le fait que le PMM soit pas connu, ça peut être un frein dans tout. Mais en fait, je pense que ça... ouvre aussi la porte justement à tester et à oser faire des choses qu'on pourrait peut-être pas faire dans un service où tout le monde connaît très bien le métier, où il y a des bonnes pratiques, où il faut que ça aille très vite. L'avantage aussi d'un métier qui n'est pas encore hyper bien cadré, hyper bien compris, c'est qu'on peut tester plein de choses. Donc je pense que ça, il faut vraiment saisir cette opportunité-là d'oser, de tester des idées, de tester des initiatives, de porter des projets. Et la deuxième chose, et c'est hyper important, c'est que je pense qu'il faut être hyper curieux, hyper ouvert d'esprit, notamment pour comprendre le métier des autres, le métier des sales, le métier des CSM, du produit. Parce qu'en fait, on travaille pour rendre service aux clients et aux prospects, mais pas que. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec toutes les équipes. Et je trouve que bien comprendre le rôle, les défis et le métier de chacun, ça permet vraiment de travailler différemment en tant que PMM.
Je trouve que ton deuxième point, il est super important parce que pour réussir à ce que le produit soit un succès sur le marché, il faut déjà qu'en interne, tout le monde sache ce qu'est ce produit-là, quelle est sa proposition de valeur, à qui on s'adresse. Et donc si déjà le message en interne, il n'est pas clair, il le sera encore moins en externe. Donc c'est vraiment une étape qui est indispensable, qu'on peut un peu sous-estimer ou se dire « bon bah c'est pas très grave ». Mais en fait après on en voit les conséquences souvent un peu trop tard et c'est dommage. Et... je pense que c'est intéressant parce que surtout maintenant que tu es freelance, où tu vas aussi avoir la liberté de pouvoir choisir aussi tes missions, les entreprises avec qui tu vas travailler. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de product marketing ? Et que dirais-tu aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent de se lancer dans ce type de métier ?
Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est qu'en fait, ça allie plein de choses que j'aime faire. C'est assez personnel au final, mais aujourd'hui, dans les métiers du marketing, on a tendance à vouloir se dire que c'est important de se spécialiser parce qu'il y a beaucoup de monde en marketing. Et parfois, se spécialiser, ça donne l'impression qu'on va se renfermer un petit peu dans quelque chose qui va être redondant, qui va être ennuyant. Et en fait, dans le product marketing, ce que j'adore, c'est que c'est une spécialité. En revanche, il y a quand même un panel énorme de choses à faire et de projets sur lesquels on peut s'impliquer. Et du coup, je trouve que ça donne vraiment un dynamisme au quotidien que peut-être j'ai pas forcément retrouvé dans d'autres branches du marketing. Et ce qui est hyper cool aussi, c'est que c'est hyper enrichissant parce que forcément, on travaille avec beaucoup de personnes différentes. On parle aux clients, on peut parler aux prospects, on s'intéresse aussi à tous les gens qu'il y a en interne. On peut être impliqué aussi sur des projets qui sont hyper stratégiques dans l'entreprise, des sujets de pricing, etc. Et donc du coup, je trouve ça vraiment hyper enrichissant. Et moi, c'est ce qui me plaît justement. Et il y a aussi un autre point qui est hyper important, c'est que on a une belle communauté de PMM là qui commence à grandir. Et du coup, je trouve ça cool aussi dans ce métier-là de pouvoir facilement rencontrer du monde, de pouvoir échanger sur des bonnes pratiques et de pouvoir grandir aussi comme ça. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus humain à quelque chose où des fois, on peut se sentir un peu seul, quoi.
Et surtout maintenant où tu es devenu freelance, où justement, je pense que cette communauté, elle va encore plus prendre sens pour toi. Et d'ailleurs, je suis curieuse du coup de savoir pour quelles raisons tu as fait le choix de devenir freelance.
J'ai toujours eu envie d'entreprendre. C'est quelque chose que je sentais depuis un moment. J'avais envie de construire quelque chose de moi-même, mais en fait, j'avais tout simplement pas trouvé ma voie. J'ai mis beaucoup de temps à savoir ce que je voulais faire et maintenant je l'ai trouvé. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui m'a guidée vers cette vie de freelance. Et aussi le besoin, je pense, d'intervenir dans plusieurs entreprises, de voir quelles sont les différences, qu'est-ce qui se rejoint, d'avoir encore plus de défis. Enfin voilà, c'est vraiment un challenge et quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. Donc, pour moi, c'était le bon moment.
En tout cas, félicitations.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Charlotte. Je pense que ça va aider énormément de personnes qui, justement, comme toi, à tes débuts, et comme à mes débuts aussi, cherchent leur voie professionnelle, ne savent pas trop quoi faire. Et je pense que tu as donné énormément de bons conseils et aussi de prise de recul par rapport à ce métier de product marketing. Si ça te va, on passe aux questions de la fin. Quelle est la prochaine personne ou le prochain sujet que tu aimerais écouter sur ce podcast et pourquoi ?
J'ai pas mal réfléchi à cette question. Et en fait, il y a un sujet qui m'avait énormément, clairement cassé la tête dans le passé, c'est le benchmark. C'est un truc que tout le monde fait, que toutes les entreprises font, et pourtant j'ai trouvé ça hyper complexe à mettre en place, surtout quand le besoin vient de plusieurs services, quand on a un besoin côté marketing, côté sales et côté produit. Comment on fait pour construire un bon benchmark, quelque chose qui va pas faire 10 pages et surtout qui va être utilisé. Et c'est vraiment une thématique où je suis très curieuse d'avoir des bonnes pratiques parce que pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai réussi à mettre en place et que ça soit vraiment hyper bien utilisé. Donc ça m'intéresserait beaucoup.
Je note. Quelles ressources ou livres tu recommandes ?
Je sais pas si je vais faire dans l'originalité pour cette question, parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de ressources qui ont été énumérées dans ton podcast. Donc je vais plutôt rappeler quelque chose que j'ai déjà dit il y a quelques minutes. Mon super bon conseil est celui qui m'a clairement aidée, parce que la lecture, j'aime ça, mais j'ai du mal à finir les bouquins. C'est surtout d'échanger avec les autres, parce qu'au-delà des livres, il y a plein de personnes qui ont plein de choses à dire, qui ont testé plein de choses, qui ont marché, qui n'ont pas marché. Et en fait, il n'y a rien de plus enrichissant que d'apprendre des autres. Donc voilà, ça c'est mon conseil avec une ressource plutôt humaine, mais qui franchement fonctionne super bien.
Complètement. Et où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter ?
Je pense que le meilleur endroit, ça reste LinkedIn. Je suis assez active, donc je pense que c'est plutôt le bon canal pour me contacter. Donc n'hésitez pas à m'envoyer une demande soit de contact, soit si on est déjà en contact, de m'envoyer un petit message, ça me ferait super plaisir.
Merci beaucoup Charlotte pour le temps accordé, c'était un super échange.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci